Oui, c'est un privilège ce matin d'être avec vous. Et puis, c'est vrai, surpris et pas surpris quand on m'a demandé de pouvoir partager aujourd'hui. La vérité, c'est que le jour d'avant, j'avais un message qui me tournait dans la tête. Puis je me disais, mais quel est le contexte, Seigneur, pour pouvoir le partager? Et puis, le dimanche où on est venu au culte avant Noël, en parlant avec Raymond, on s'est rendu compte, en fait, que vous étiez dans une pensée qui était similaire à ce que je suis en train d'expérimenter avec mon épouse au Chili, dans notre terrain missionnaire, c'est-à-dire le service, rentrer dans la vie active, rentrer dans les strates sociales pour pouvoir révéler Christ. Et puis, de cette conversation est née une pensée de pouvoir partager la parole avec vous ce matin. Et le message que je voulais partager, je l'ai intitulé « Le service comme moyen d'évangélisation ». Le service. Avant tout, je vais mettre le contexte. Le contexte, c'est ce qu'on a vécu ce matin. Dieu est roi. Dieu règne. On le croit, on l'a chanté ce matin, on l'a proclamé, on le vit, on se donne à lui. C'est la réalité, la vérité, marquée en grand haut de l'affiche. Mais lundi matin, ce Dieu qui règne, quand je suis au travail, quand je suis dans mes relations, il y a quelque chose qui change. C'est comme s'il y avait une menace, il y avait une intimidation du monde. Et puis, c'est de ça que je veux vous parler ce matin. Et pour pouvoir illustrer ce message, j'ai choisi un passage, Philippiens 2, du verset 14 au verset 16. Dans certaines des Bibles, c'est inclus le verset 16. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu, irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi lesquels vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation. En pensant à ça, en méditant là-dessus, j'ai fait un parallèle, vous allez peut-être le trouver bizarre, j'ai fait un parallèle avec Éphésiens 6, avec l'armure du chrétien, la préparation pour affronter. Sans murmure, une hésitation, ça me fait penser à la vérité, la conviction, là où je suis planté. Ce qu'on a proclamé ce matin, on part de là, Dieu est roi, Dieu me conduit, je suis rempli du Saint-Esprit. Dieu veut toucher, Dieu aime les hommes, il veut que tous les hommes arrivent à la connaissance de la vérité et soient sauvés. C'est sa volonté. Ma conviction, là où j'ai les pieds qui sont posés. La vérité, le chemin, la vérité, la vie, Jésus-Christ. On sait ces choses. Mais moi, je me suis rendu compte que des fois, parler à un enfant, je me disais, mais est-ce que je vais lui dire quelque chose qui va influencer sa vie? Et puis, je me sentais timide de pouvoir parler à un enfant non chrétien, de peur que ses parents me réprimandent, ou comment je vais oser, moi, parler à un enfant dans cette société qui me menace, ne surtout pas, parle de ce que tu veux. Mais Christ, non. Cette réalité de cette intimidation, et pourtant, nous sommes les pieds plantés dans la vérité. La croix a été plantée il y a 2000 ans. Jésus est ressuscité, il est en gloire, il règne. Et puis d'être confronté à ça, sans murmure ni hésitation. Mettez sur vos seins la ceinture de la vérité. Que cette réalité de la vérité de Dieu soit notre point de départ. Mais à méditer, à être confronté, même des fois à faire frire un peu notre chair qui préfère le confort de la non-confrontation. Et puis rentrer dans cet esprit qui est en Christ, au verset 5, un peu plus haut, dans ce chapitre de 2 des Philippiens, le service. Rentrer dans la manière dont Christ est venu, s'est incarné, par le service. Nous, on aimerait bien, Dieu règne, je suis avec lui, nous sommes rois de la terre, allez, on vient à appliquer son royaume sur ces générations perverses, mais ce n'est pas comme ça que ça se passe. Le royaume, d'abord, il est dans nos cœurs. Et quand Christ venait, s'approchait, il disait « Le royaume de Dieu s'est approché de vous. » Ceux qui sont porteurs du royaume s'approchent de vous. Et puis avec ça, On veut vous servir. On veut vous aimer. L'autre jour, dans une fête de Nouvel An, dans ces mêmes locaux avec l'église baptiste anglaise, il y a un jeune qui s'approchait et qui m'a dit « Mais quel est ton conseil pour faire grandir une église ?» Je lui dis, il n'y a pas de secret. Tu t'assieds au jardin anglais avec un Syrien, avec quelqu'un qui ne croit pas. Tu parles, tu sers, tu l'aimes, tu vas boire le thé chez lui. Tu rentres en contact. On n'est pas dans un bocal. Les gens aimeraient bien nous mettre dans un bocal. Dans votre église, faites ce que vous voulez, mais sur la place publique, non, ça ne va pas. Et puis en plus, la vérité. C'est quoi la vérité d'abord, pour commencer? De quel droit vous dites que Christ a la vérité? Où est-ce que c'est? Non, ça ne va pas. Et on nous menace avec ça. Ne faites tout sans murmure, n'hésitation. Sans murmure, n'hésitation. Quand il y a le trouble dans mon cœur, moi je dois aller à Christ. On n'est pas là pour raconter des histoires. Le doute fait partie de notre chemin. Et puis, il y a un moment donné où il faut retourner à la base. Il faut être fondé. Et puis ça, le fondement, c'est aussi le travail de l'Église. Moi, j'ai pris mes premiers cours de fondement de la foi avec Raymond Bourquin dans la salle qui est en face. Éphésiens 4 nous dit qu'il a donné des ministères afin de nous préparer à servir. Et que le corps lui-même, par toutes ses articulations, s'édifie dans l'amour. L'Église, c'est le lieu de fondement. Le lieu, c'est la colonne de la vérité. C'est le soutien dans nos vies de ce qui est la vérité. On a besoin du corps. On a besoin de ce moment ce matin où on peut proclamer. On a besoin de ce moment ce matin où on met Christ à sa place, où on met le Père à sa place, où on reçoit la vivification du Saint-Esprit. C'est le lieu d'où nous partons. On est envoyé depuis ici, pour demain. On est formé ici, pour demain. Ce n'est pas juste un lieu où on vient dimanche et puis on jouit de sa présence. C'est un lieu c'est un point de départ. Et ça doit être le point de départ pour nos vies. La fondation que l'Église, que les ministères de l'Église, apôtres, prophètes, pasteurs, docteurs, peuvent placer dans nos vies. Et puis l'Église doit avoir ce rôle pour qu'on puisse être sans murmure ni hésitation demain matin. Une des plus grandes difficultés que j'ai pu rencontrer dans mes relations avec les gens au Chili, mais bon, c'est... Que ce soit le Chili ou Genève ou Tombouctou, c'est la même chose. C'est vrai que dans un pays comme le Chili, qui est de base catholique, parler de Dieu, parler de Christ est plus facile. Dans une société post-chrétienne comme Genève, où déjà on est passé à la page d'après, où on a classé le christianisme avec les autres, c'est plus difficile. Mais même quand on parle de Dieu, on arrive à parler de Dieu avec beaucoup de monde. Mais c'est la précision qui est difficile. Et puis la précision la plus difficile, c'est la croix. Moi, combien de fois je me suis resté avec la croix en travers de la gorge, dans une conversation, où on peut parler, on va profond même. Dieu est bon, Dieu nous aime, tout ce que tu veux. Mais quand il s'agit de parler de la croix, quand il s'agit de planter réellement l'œuvre de Christ, l'œuvre accomplie, l'œuvre parfaite, d'où tout est parti. Quand on doit venir à ça, ça coince. Je ne sais pas votre expérience à vous, hein, dans votre relation avec les gens avec qui vous parlez, vos voisins, la caissière de la Migros, votre compagnon de travail, les gens que vous rencontrez dans le bus, si on ose parler à quelqu'un dans le bus, parce que, attention, on ne me touche pas. Hein. La réalité, c'est que la croix, c'est le message. La puissance de la croix. La puissance de la croix. Je n'ai pas honte de l'évangile, dit Paul en Romains 1, 16 et 17. C'est la puissance de Dieu, celui qui croit. Dans 1 Corinthiens 1, la réalité de la folie de la prédication de la croix, mais justice de Dieu pour celui qui croit. C'est vraiment le point, c'est la pierre d'achoppement. Et si on n'arrive pas à sortir cette croix de travers de notre gorge et puis la proclamer, la poser gentiment à sa place, l'enseigner de manière adéquate à la société dans laquelle on est, on n'a pas évangélisé. On a fait des bondieuseries, on a renforcé le New Age, la pensée vague d'un Dieu qui est là, une force. La Star Wars, ça y est, la force, c'est de mode, c'est la mode. Mais ce n'est pas ça, c'est pas ça notre message. De rendre les gens... C'est un pas, bien sûr. Il y a des gens qui, en Suisse, je parlais avec un ami avant-hier, dont le fils s'est converti à l'islam, il était détruit. Puis je l'encourageais, je lui disais, mais au moins ton fils cherche. Il y en a tellement qui sont baba cool, qui fument tout ce qui pousse jusqu'à l'âge de 20 ans. Après, ils se vissent la cravate et puis ils rentrent dans une boîte et puis ils ne pensent plus à rien. Ils s'achètent une grosse télé, une grosse bagnole et puis un appartement. Ils se marient à l'église. Et puis, ils ne pensent plus jamais à Dieu de leur vie. J'ai dit, au moins ce gars, on a prié pour lui. Mais au moins ce gars, il cherche quelque chose. Et puis, il y a des promesses pour lui. Qui cherche, trouve. À celui qui frappe, on ouvrira. Et notre rôle, c'est vrai que c'est déjà peut-être ouvrir à la pensée de Dieu. C'est le premier pas. Mais le second pas, c'est vraiment pouvoir prêcher l'évangile. L'œuvre accomplie, l'œuvre parfaite. L'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Cette œuvre de laquelle personne ne pourra nous séparer. Cet amour parfait. C'est vrai, sans murmure ni tremblement, ça veut aussi parler de ma position en Christ. Est-ce que je suis sûr de mon salut? Il y a une réalité que maintenant, il y a un doux mélange dans beaucoup d'églises, en tout cas en Amérique du Sud, sur des églises immenses, mais en fait, il y a un point qui n'est presque jamais clair, c'est l'assurance du salut. Et puis ça, il faut qu'on fasse le tour de cette question dans nos propres vies. Étudiez ça, et puis c'est un défi pour vous. Cherchez dans la parole. Je ne vais pas vous donner les versets. Je ne vais pas vous donner la doctrine. Cherchez. Ayez une conviction par rapport à ça. Parce que si on n'est pas sûr de notre salut, qu'est-ce qu'on propose? Une religion? Bon, on a toujours ce gag qu'on dit aux catholiques, mais vous payez... Le salut comptant, donc vous travaillez, puis une fois que vous avez bien amassé votre pactole de bonnes œuvres, vous êtes sauvé. Nous, c'est à crédit. Beaucoup de chrétiens, c'est à crédit. Vous êtes sauvé, c'est gratuit, Dieu vous aime, mais par contre, après, il faut payer. Il faut venir à l'église, il faut faire les œuvres, il faut donner la dîme, il faut donner les offrandes. Sinon, attention, tu vas te perdre. Moi, j'y vais peut-être un peu trop loin, mais ma conviction, c'est que mon salut est dans les mains de Dieu. C'est lui qui nous sauve. Depuis quand est-ce qu'on a pu se sauver soi-même? Où est-ce qu'on a vu ça? Une fois dans la parole de Dieu qu'on peut se sauver soi-même. On a toujours été conduit vers un sauveur, celui qui doit sauver, celui qui me sauve hier, aujourd'hui, demain, et qui n'a jamais déçu de moi. Qui, quand il a pris ma vie en main, savait déjà toutes les âneries que j'allais faire dans ma vie, mais il a quand même décidé de m'aimer tel que j'étais, avec mon futur devant lui. Mais à part ça, cherchez-vous, étudiez. Un défi pour vous. Afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue. Irréprochables et purs. La justice de Dieu. Comment est-ce que je peux me présenter de manière irréprochable et pure? Mais franchement, vous êtes regardé dans le miroir ce matin? Vous avez vu vos pensées? Moi, je sais de quoi je suis fait. On ne va pas se mentir à soi-même. On est jaloux, on est envieux, on a ces pensées de colère, on a ces pensées qui sont pas claires, on a des besoins qu'on veut assouvir au travers des réalités humaines. On est encore dans la chair, on a une réalité charnelle qui me séparera de ce corps de mort, dit Paul, en Romains 7. Je fais pas ce que je veux, je veux pas le faire. Il y a une réalité qu'on est encore des gens qui sont dans la chair, pécheurs, sauvés par grâce, dans une nouvelle nature que Dieu nous a donnée. Une nouvelle nature, on a une capacité de marcher en nouveauté de vie. Mais la réalité, c'est que je ne suis pas juste par moi-même. C'est Christ qui me rend juste. Et Paul de dire, je ne vais pas être trouvé avec ma propre justice, mais la justice qui vient de Dieu. Et puis ça, c'est aussi un point dans... avec lequel on doit se poser face à la réalité de nos relations. Quand je sers, avec quelle autorité je vais? Quand je commence une œuvre, quand il y a une idée de Dieu qui germe, que je la mets en place dans la société. Est-ce que je suis meilleur que les autres? Ou est-ce simplement dans mon humilité, je peux discerner que Dieu m'a rendu juste, m'a rendu agréable, m'a rendu apte à recevoir sa pensée par l'œuvre de la croix pour pouvoir révéler son cœur au travers de ce que je fais. Si on peut être des enfants de Dieu irrépréhensibles, c'est à cause de la justice. À cause de la justice que Dieu nous a donnée. Et puis ça, on retrouve de nouveau Éphésiens 6. La cuirasse. La cuirasse de la justice. Des enfants de Dieu, le casque du salut. On est enfant. Et puis être la position dans laquelle on est, l'identité en Christ qu'on a, c'est notre point de départ. Mais maintenant, partant de là, on peut rentrer dans la société, on peut prendre des risques. Parce qu'on est sûr. Parce qu'on est sans murmure, n'hésitation. Parce qu'on est déclaré irrépréhensible, pur, agréable, à cause du sang de Christ. On peut rentrer. Et puis alors là, tout est ouvert. On peut faire ce qu'on veut. Ce que Dieu veut, j'espère. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a un éventail de possibilités qui est ouvert devant nous, qui est juste limité par la créativité de Dieu. Et puis rentrer à ouvrir les yeux sur les besoins, et puis en tirer les conséquences, s'organiser et servir. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette salle il y a combien d'années maintenant? Henri Dunant, la création de la Croix-Rouge, voir des besoins, être touché par Christ, par des besoins, rentrer et puis organiser ce qui était le germe de la Croix-Rouge. Bien sûr, il y a un piège, et puis c'est pour ça que je viens à la Croix-Rouge, c'est l'humanisme. De servir et perdre l'identité que Christ a mise sur nos vies. C'est ce qui s'est passé avec la Croix-Rouge, l'humanisme l'a tué. Maintenant, en pensant à ça, je me disais, d'une manière ou d'une autre, la Croix-Rouge manifeste encore le cœur de Dieu pour les gens qui souffrent. Mais il n'y a pas la signature en bas de la page. Et puis notre risque dans les œuvres qu'on peut faire, dans le service, dans la société pour manifester le cœur de Christ, c'est de perdre ça. Et puis pour ça, il faut prendre des mesures, et puis qui sont des mesures presque d'hygiène, jour après jour, de toujours revenir à qui est Dieu, toujours revenir à quelle est la source de notre motivation. Et puis si on s'écarte de ça, arrêtez. Parce qu'autrement, on va arriver à mettre en place des moyens humains, et puis on ne va plus être dans la manifestation de Christ. Moi, je vois dans notre vie au Chili, pendant plein d'années, on a planté des groupes de prière, des groupes de maisons, fondé des églises. On a travaillé qu'au niveau spirituel pendant 5 ans. Seulement ça, encourager des familles, réveiller les chrétiens, les rassembler, les placer dans les églises. On a tout, vraiment, Dieu nous a conduits dans ces choses-là. Enseigner aussi à l'Institut théologique. Mais à un moment donné, Dieu nous a dit, enfin, c'était facilement pour moi, maintenant tu retrousses tes manches et puis tu mets les mains à la pâte. Tu vas rencontrer les gens. Et puis parallèlement à ça, il y a des gens du village dans lequel on vit qui sont venus me voir, puis ils m'ont dit, Philippe, on voit ta vie, on voit ce que tu fais, est-ce que tu ne veux pas nous aider dans l'association des voisins? Il y a une association des voisins dans le village, un village qui a environ 2000 personnes. Et puis il y a un groupe d'associations de voisins qui gère beaucoup de choses, parce que le gouvernement central, il est très loin, et le gouvernement local, la mairie, il est dans le village d'à côté. Et il faut une structure, une société civile qui puisse s'occuper, puis faire connaître à la mairie, à la province, au gouvernement central, les besoins du village. Et puis, ça correspondait à cette pensée de s'exposer, et puis de relever ses manches, et puis de commencer à vivre la réalité avec les gens, parce que on était dans un monde évangélique où on allait évangéliser, on parlait de Dieu, on recevait des gens. on avait un travail pastoral avec des gens qui étaient à la maison. Notre maison n'a jamais été vide. D'ailleurs, elle s'est agrandie au fur et à mesure des visites qui venaient nous voir et qui avaient besoin d'un conseil et d'un suivi. Et puis là, j'ai dit, bon, d'accord. C'était au mois d'octobre, en 2007. Et puis, au mois de décembre, il y avait des élections dans ce groupe. C'est très structuré, c'est un peu des... C'est des anciennes structures qui viennent du système socialiste où il y a des cellules, tout un système hiérarchique. Et puis bon, il y avait des élections. Et puis, tu veux travailler dans le directorio, comme ils disent ça? Puis Dieu, pourquoi moi travailler? Je suis là pour ça, quoi. Et puis ils m'ont pistonné président. Donc je me suis retrouvé président d'une association de voisins dont je ne savais rien du tout. J'avais pas la culture d'association de voisins, rien. Zéro. Du coup, j'étais voir à la mairie, vers le gars qui s'occupe de tout ce qui est social. Je lui dis, mais qu'est-ce que je peux faire? Quel est mon rôle? Moi, j'ai plein d'idées. Je viens d'Hermance, au bord du lac. Je sais ce que sont les problèmes d'un village touristique. Là, on est au bord de la mer, il y a du tourisme aussi. J'ai des idées de développement, mais qu'est-ce que je peux faire? Et puis, tout de suite... Il y a eu un défi, c'était le plan cadastral. Quel plan cadastral? Qu'est-ce à voir avec Dieu, ça, le plan cadastral? Il a commencé à lutter, faire des zones, la constructibilité, la hauteur des immeubles. Je dis, mais Seigneur, est-ce que je me perds dans cette histoire ou bien quoi? Et puis en fait, ce qui s'est passé, c'est que on a travaillé, mais on a travaillé avec des gens, avec des âmes, avec des gens qui sont assis autour de la table. Et puis on a fait des plans. Et puis il y a des relations qui sont mises en place. Et puis Dieu m'a donné une capacité que je ne connaissais pas, c'est du liderazgo, de conduire ces gens-là. Et puis Dieu a mis à mes côtés, toujours, dans tous mes défis, des gens qui étaient formés dans leur métier, des architectes et des urbanistes. Et moi j'étais là, je regardais les choses que Dieu faisait. Et je voyais que ça passait, et puis je voyais qu'on avait une autorité auprès des autorités, une autorité auprès de la mairie, de ces gens-là. Puis on a pu faire rentrer un plan cadastral qui était selon nos désirs. On a protégé notre village de l'invasion immobilière. On a changé la vie des gens, simplement en s'asseyant, en travaillant, puis en rentrant dans des défis. Puis on se dit, mais Seigneur, et puis souvent ma femme m'a dit, mais tes voisins, tes trucs, et puis elle ne comprenait pas trop, et puis... Parce qu'il n'y avait pas encore vraiment des fruits spirituels. Maintenant, l'architecte qui était avec moi, qui était ma principale aide dans tout ce travail, c'est un homme qui a 75 ans, qui a un cancer du cerveau. Et cet homme, je l'ai évangélisé, il a entendu Christ. Ma femme donne des cours à son épouse. Il y a un travail spirituel qui s'est fait. C'est une famille qui a été changée. Mais en 2007, quand on était en train de tirer des plans, on n'y pensait pas. Après ça, il y a un immeuble qui se construit sans autorisation. Alors là, la lutte, le truc. Puis on commence de nouveau, Dieu m'a à mes côtés, un homme passionné qui vit dans la région. Moi, j'ai structuré notre organisation, c'est un village qui est très long, presque comme le Chili. Ça fait 6 km au bord de la mer. Et j'ai mis des gens qui se sont levés, à qui je peux avoir confiance. Qu'on a pu tester dans la motivation. Et puis, le gars qui s'occupait de la région, il y avait cet immeuble en construction, sans autorisation de construction, il est venu passionné chez moi, il a fait un travail, etc. Puis, qu'est-ce qu'il avait besoin de ma signature en bas les lettres? Il faisait le travail, lui. Mais ce gars, c'est un gars qui cherchait Dieu. Et puis, on a une relation spirituelle maintenant avec lui, où on peut être clair. Il est de base catholique. Mais il y en a jusqu'ici de la religion qui est juste de l'effort pour mériter. Il a compris que le salut vient de la croix. Je dois assez répéter. Et puis maintenant, c'est un homme que je sais qu'on va pouvoir continuer à travailler. Son frère est un homme politique très très connu au Chili. Son neveu, je travaille avec lui, c'est un écologiste fou qui protège les loutres et les mouettes, etc. Avec eux, ils sont venus me chercher une fois. « Ah, mais toi, Philippe, qui est menuisier, charpentier, on va faire une pergola, une espèce de local pour, pour protéger un lieu de valeur écologique. C'est bon, on y va. Je ne vous dis pas ce que je n'ai pas rencontré là-bas. Il a fallu que j'évangélise les chamans. Ils avaient leur tipi, ils faisaient leur machin, leur truc. Et puis moi, j'étais là. Et puis le chaman de se mettre sous moi, puis de vouloir être enseigné, en coupant des arbres, en faisant un truc. On ne se rend pas compte. Simplement de s'exposer, d'obéir à Dieu dans les choses qui n'ont pas de substance spirituelle en soi. Mais c'est ce que vous vivez dans votre travail. C'est ce que vous vivez demain. C'est pas parce que c'est un truc exotique au Chili qu'on peut faire ces choses-là. Et puis, je peux vous en compter des dizaines comme ça. Mais dans ce travail de service, ça a passé des années, où les gens commencent à connaître mon caractère, à connaître pourquoi je me bats, à connaître mes motivations, qui sont avant tout de montrer Jésus, de hisser bien haut l'étendard de Christ. Et puis les gens viennent se positionner par rapport à moi, maintenant, dans ce contexte. Là, en septembre, il y a les pompiers qui sont venus. Les pompiers de mon bureau, ils ont essayé d'avoir des financements par d'autres moyens, puis ils sont fait rouler dans la farine. On leur a promis de l'argent, et puis on ne leur a jamais donné. Ils avaient des besoins de financement pour payer un garde pour leur caserne. Et puis, ils ne savaient pas comment faire. Ils viennent vers moi. Ils viennent de mon bureau. Ils disent, Philippe, on a besoin de toi. Et puis, on sait comment tu es, on sait comment tu marches, on a vu ce que tu as fait. On a besoin de toi. Première question, vous êtes franc-maçon? Parce que les pompiers, au Chili, c'est vraiment infesté. Et puis on a. Ils me demandent pourquoi. Je dis, moi, je ne veux pas commencer à travailler avec vous si on va être dans un truc bizarre. Je vais vous donner des conseils, vous envoyer vers des gens, mais je ne veux pas, moi, vous aider à ça. Et puis on a parlé, c'était clair. Total, on a créé une organisation, des amis des pompiers, dans lesquels les 2000 personnes du village peuvent maintenant donner de l'argent pour les soutenir. Et c'est une histoire qui roule. Maintenant, tout ce que j'ai besoin de faire, c'est d'envoyer un mail de temps en temps à tous mes voisins pour leur rappeler les besoins, les informer de ce qui a été fait, du nouveau camion, de la caserne qui a été construite, ces choses-là. Mais en même temps, tout ça, c'est à cause de Christ. C'est parce qu'ils ont vu dans nos vies une ligne qui était claire. Et puis ça, franchement, si vous me connaissiez, avant ma conversion, c'est un gars qui était plus tordu. Alors, j'en connaissais pas beaucoup. C'est simplement l'œuvre de Christ. Parce que, en nous-mêmes, on n'a pas cette structure, cette colonne vertébrale. C'est Christ qui nous la donne. Et puis, rentrer dans cette réalité-là. Pour continuer le... Le passage, on ne va pas trop s'écarter la parole de Dieu. Ouais. Parmi lesquels vous brillez comme des flambeaux dans le monde, pour le verset 15b ou dans certaines Bibles, le verset 16. Le fait de... C'est peut-être bizarre ce que je vais vous dire là. Il y a une déclaration qui m'a touché quand je méditais sur ces passages. Vous brillez. Ce n'est pas que vous devez briller, efforcez-vous de briller. Une déclaration unilatérale de Dieu, vous brillez. Maintenant, Dieu nous a placés en situation de briller. On connaît ces versets, tu ne mettras pas la chandelle sous le boisseau, on le met sur une montagne. Il y a un rôle à nous de pouvoir manifester cette lumière. Mais la lumière, elle brille. La lumière, elle brille. Dans vos vies, Christ est là. Et vous, brillez. Vous êtes différents. Le mot briller, là, ça ne parle pas vraiment de lumière. Dans le contexte, comme des flambeaux, dans une génération perverse, c'est clair, ça parle de lumière. Mais le mot en grec, c'est, vous avez du relief. Vous ressortez du contexte. Et puis ça m'a fait penser, à l'humilité. À l'humilité. L'humilité, ce n'est pas d'être avec un pull gris comme la paroi, puis de passer inaperçu, tout petit. Ce n'est pas ça l'humilité. L'humilité, c'est d'obéir. C'est de prendre le risque de briller pour Dieu là où Dieu m'a placé. De s'exposer. De mettre ce flambeau sur la montagne et pas sur le boisseau. Mais vous brillez. Vous ne vous rendez pas compte. Vous êtes des vichoraros, on dit en espagnol, des gens bizarres dans le monde. Vous n'êtes pas normal. Il y a une dimension que vous avez en vous que les gens n'ont pas. Je ne sais pas, vous avez toutes des allumettes, une allumette de mangal à côté qui est rouge. Il y a quelque chose de différent. Ouh, là, il y a quelque chose. Et vous avez ça en vous. Et c'est sûr, c'est une déclaration, vous brillez. Et puis ça, je veux le souligner en rouge. Parce que tellement de fois, on va chercher, on vient ici, on vient à l'église, on veut être rempli, on glorifie Dieu. Et puis on a l'impression qu'il faut qu'on ouvre grand les yeux pour que la lumière sorte. Ou je ne sais pas, moi j'ai eu ces âneries-là, de vouloir manifester Christ. Et puis comme si j'avais besoin... Non. Christ en moi, c'est quelque chose de tellement différent. Et puis, je vais vous encourager avec ça. Soyez tranquille, mais obéissez, exposez-vous. Et puis s'exposer, c'est simplement être qui je suis en Christ, dans la foi, sans murmure ni hésitation, dans la justice de Dieu, là où Dieu m'a placé, et le vivre. Ils ne sont pas contents, mais c'est clair, la menace, elle est là. On ne va pas parler de cette menace-là, de « tais-toi, non, tu sais, vous êtes une secte, de toute façon, Dieu est amour. » Non, mais... Dieu est amour, mais il n'a que cette forme-là. Il n'a pas de précision, il n'a pas de... Il n'a pas de caractère, il est juste amour. Et puis, on va vous venir avec ça. Moi, même dans ma famille, il y a des gens qui se disent chrétiens, j'ai une sœur qui est... Mais moi, il me tape la tête contre les murs quand je vois ses décisions. Ah, ma fille se marie avec un juif, mais Dieu est amour. Mais ils vont, ah, Dieu les bénisse. Mais qu'est-ce qui... Ta fille, elle dansait dans l'église. C'est une fille qui a grandi là, qui est convertie, qui est baptisée. Et puis maintenant, qui se lance dans un truc où elle sait très bien qu'elle n'aura pas de communion avec son mari en Christ. Le gars, il ne veut pas savoir. Son identité est claire. C'est sa culture, il ne veut rien savoir. Mais qu'est-ce que tu fais avec ce gars? Et ma frangine de lui dire, mais non, c'est l'amour. Mais moi, ça me rend fou, ces trucs-là. Je ne sais pas pour vous, mais ça m'agace parce que ça me dit à moi, mais t'es sectaire, t'es intolérant. Mais qu'est-ce que je lui... La parole, elle est claire. On a chanté, ça m'a frappé, merci pour ta parole, elle est notre essentiel, notre essence. Sans elle, sans le caractère de Christ manifesté dans la parole, sans le caractère du Père manifesté dans l'Ancien Testament, dans les lois où il nous dit ce que j'aime, ce que j'aime pas. On n'est pas sous la loi pour être sauvé, mais on connaît son caractère dans l'Ancien Testament. Il nous dit ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas. Et puis on peut le connaître, il a une forme, il a une définition. Et puis on l'étudie, et puis on apprend à le connaître, et puis on marche avec lui jour après jour, selon son caractère, révélé par sa parole. Et puis là, on liquéfie tout sous une définition. C'est vrai que Dieu est amour, et puis que sa motivation pour nous sauver est amour. Et puis qu'il est venu par amour. On ne parle pas de ça, mais il n'y a pas que ça. Il y a sa sainteté, il y a sa justice. Il y a son plan pour nos vies. Et puis tellement souvent, on réduit Dieu au plus petit dénominateur commun, et puis on fait des trucs. Mais Dieu veut qu'on brille d'une lumière précise, d'une lumière qui manifeste son caractère. Et puis ça demande de le connaître. Encore une fois, je retourne à Éphésiens 4, l'Église, les ministères, la formation, ce que vous êtes en train de vivre... plusieurs d'entre vous, au niveau de la formation pour le service, C'est vraiment important, ça. Briller, ça me faisait penser, pour retourner au parallèle que je faisais avec Éphésiens 6, aux ailes. Les ailes que me donne l'Évangile. La joie. L'enthousiasme. L'enthousiasme, c'est un truc chrétien, ça. Endieusé. Entheos. Enthousiasme. C'est réservé à nous. S'il n'y a que nous qui pouvons avoir cet enthousiasme de Dieu. Cette joie manifester ses fruits. Cette réalité. Le règne de Dieu dans ma vie, qui transforme ma vie, qui me donne une sécurité, une tranquillité, qui me donne... Je ne sais pas qu'on va voler comme le maître Yoda, un maître du sol. C'est pas ça. C'est que je suis incarné, maintenant je marche, mais Dieu est en moi, et j'ai une qualité différente de vie. Je l'expose, c'est Christ, je mets sa signature, et les gens sont confrontés à ça. On parle... Mais des fois, c'est sans parole. Évangéliser, c'est souvent sans parole. Et je me suis rendu compte dans la manière dont Dieu nous a conduits, nous, c'est spécial, mais que très souvent, c'est vrai, à part de parler de notre identité et d'être tout à fait clair de qui on était, souvent, il n'y a pas beaucoup de place pour la proclamation de l'Évangile, mais de la place pour le service. Mais c'est vrai que quand on voit la rétrospective, maintenant les gens viennent à nous pour demander de l'aide, avoir des conseils, pouvoir arriver au bout de leur projet. Mais on est en 2015, j'ai commencé en 2007. Il y a eu tout un temps de gestation, d'apprentissage, de poser des bornes. De faire des erreurs aussi. Ça n'a pas été facile. Je me suis pris des coups de poing. Il y a même une nana qui m'a fait une passe Facebook. Mike Tincio, c'est notre village sans Philippe. Tellement la lumière, elle voulait lui tirer des cailloux. La persécution, elle est là. Mais celui qui veut vivre pieusement sera persécuté. Il y a une réalité. Mais si on est sûr de notre salut, encore une fois, on revient à ça. Si on est tranquille, posé. Moi, c'est vrai que moi, j'ai eu, un peu bizarre à vous dire ça à nouveau, ce privilège, quand on préparait Noël 92, d'avoir une confrontation très difficile. Tu te rappelles Noël 92 ? Tu as dansé, toi. Hein ? Ouais. D'avoir été pas très sage et confronté à un chrétien. Dans sa désobéissance, il a voulu m'étrangler jusqu'à ce que je perde connaissance. Mais dans cette expérience-là, où je disais, mais c'est la vérité, c'est ça, où j'ai vu que j'avais la paix par rapport à la mort, où j'ai pu vivre ce verset d'Hébreux 2 qui dit qu'on sera délivré de la peur de la mort pour pouvoir le servir, je me suis rendu compte qu'effectivement, il y avait cette réalité dans ma vie. La liberté par rapport à la mort. C'est vrai que j'ai eu ce privilège de vivre une expérience comme ça où sérieusement, je n'ai pas été sage de confronter ce gars-là. Mais Dieu, là-dedans, a attiré une gloire et puis m'a donné une liberté par rapport à ça. Et puis, je peux mettre des fois mes pieds dans les trucs où honnêtement, si j'écoutais la sagesse humaine, j'irais pas. Quand on travaillait, on a fondé une église au Maroc. Quand on travaillait, j'étais dans les lieux de vie des bidonvilles à Marrakech, ou dans une famille, on prêchait l'Évangile, mais il y a les voisins qui étaient là. Il y a des difficultés. Est-ce qu'on a peur dans ces moments-là ? Dieu m'a toujours donné la paix dans ces moments-là. Mais quand on était en Albanie, qu'on a dû fuir, on a fait un spectacle que ma femme a écrit pour aller dans les camps de réfugiés pendant la guerre du Kosovo. On a été dans tous les camps de réfugiés qui étaient autour de Tirana, avec un spectacle qui manifestait l'œuvre de Christ, des Kosovos musulmans. On avait des appuis avec la Croix-Rouge qui nous permettaient d'aller dans tous les camps. On était dans les camps saoudiens, les camps jordaniens, les camps tunisiens, prêcher l'Évangile. On a fui un camp avec les kalachnikovs. On a dû partir, charger les décors et partir, mais en vitesse, à cause d'une erreur d'un des collaborateurs. Et dans ces moments-là, on se dit, mais Seigneur, merci. Parce que quand on est dans le feu de l'action, on ne pense pas. On court, on gère, mais on se rend compte que Dieu est là. Après, on se rend compte à quel point Dieu était là. Et puis, pour revenir au message, et puis elle nous réalise tous les jours, cette peur de l'autre, pour commencer. Non, je sais pas pour vous, mais moi, le besoin d'approbation dans ma vie passée, c'était quelque chose de très puissant. J'ai fait du sport à haut niveau, fait de la musique, j'ai sorti mon sax ici, tout jeune converti. Puis je me suis rendu compte, mais au bout de 15 jours que je cherchais les projecteurs, que je cherchais à briller, que je cherchais à être. Et puis le sax, il est resté dans sa boîte, et puis je le sors de temps en temps pour louer Dieu dans mon bureau. Mais le besoin d'approbation, le besoin d'exister, la peur de perdre ça. Quand on est dans la société, dans un travail, je me rappelle, j'avais un patron ici à Genève, un menuisier. Et le gars, son truc, c'était de faire peur aux gens. Son truc, c'était de leur trouver une erreur. Puis après cette erreur, l'exploiter en les menaçant, en leur montrant bien qu'on leur devait quelque chose à l'entreprise, et puis toujours sous la menace. Et puis, j'ai travaillé 5 ans dans cette entreprise, et c'était très drôle parce qu'avec moi, ils venaient fous. Parce que ces menaces, c'était comme un chat sur une bouteille en verre. Qu'essaie de s'accrocher. S'accrochait pas. À cause de l'irrépréhensibilité devant Dieu, la pureté, que de la justice de Dieu, la capacité que j'avais de confesser simplement mes erreurs et puis de savoir que Dieu les avait pardonnées. Mais la liberté face aux hommes. Parce qu'au bout du compte, ce qui nous empêche de parler, ce qui fait que la croix, on l'a au travers de la gorge, qu'on n'arrive pas à la formuler, c'est ça. C'est la peur des hommes, la peur d'être rejeté, la peur que cette société nous classe, la peur d'être identifié comme des gens bizarres. Parce qu'il y a des contextes. Nous, comme pasteurs, c'est facile. On est en relation avec des chrétiens, on reçoit des chrétiens dans le bureau, on parle avec eux. Mais quand on est dans le monde, la menace, elle est là. Et je vais vous encourager. Vivez cette réalité. Christ, la prophétie de Zacharie, il est venu pour qu'après avoir vaincu nos ennemis, nous puissions le servir sans crainte. Sans crainte. C'est un verset qui est toujours resté dans mon cœur et je l'ai reçu dans cette salle, ouf, en 92 ou 3. C'est un pilier pour ma vie. Il a vaincu nos ennemis pour que nous puissions le servir sans crainte. Puis pour finir, on pourrait faire un semestre sur ces choses-là, mais la dernière partie, portons la parole de vie. Portant la parole de vie. Bon, bien sûr, le parallèle avec Éphésiens 6, il est clair. L'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. L'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Sans, à un moment donné, il faut sortir l'épée. La parole de Dieu. Celle qui structure. Celle qui va rester. Dans mes moments d'évangélisation, de partage, j'essaie tout de poser la parole. La parole d'avoir sa place. On peut philosopher 1000 ans. Parler de Christ, encourager. Mais si la parole est dans notre cœur, si on la connaît, pour commencer, Éphésiens 4, formation, si on la vit, si on la travaille, on la médite, qu'elle est abondante en nous, on aura une capacité de pouvoir poser la parole adéquate au moment donné qui va rester comme une épée. L'Esprit de Dieu travaille sur la base de la parole. Si la parole n'est pas prononcée, l'Esprit ne travaille pas les cœurs. Si la croix n'est pas posée, l'Esprit ne travaille pas les cœurs. Il a besoin, l'Esprit de Dieu, pour convaincre de justice, de jugement et de péché, il a besoin de la parole de Dieu prononcée, déclarée, élevée, pour pouvoir travailler les cœurs. Et ça, c'est vraiment important. L'Esprit de Dieu, il y a une onction. Moi, j'ai été conduit à Christ, j'étais au Yémen, rempli autour de moi, il y a plein de musulmans. J'étais Dieu m'a convaincu de mon péché, j'étais à 14 000 bornes de chez moi. Dieu m'a permis que je sois en dehors de mes cercles de confort, de mes amis, de ma société, qui on m'aimait beaucoup. Hein, le sport, il est bon, il fait de la musique, un bon copain. Et j'étais tout seul. Et puis, Dieu a touché mon cœur. Il m'a convaincu des erreurs de ma vie, qu'il fallait que je change ma vie à la base. J'ai prononcé ces paroles avec la personne qui est avec moi. Il faut qu'on change notre vie dans ses fondements. Mais j'ai dû revenir 14 000 bornes en Land Rover à 80 à l'heure pour que, à Genève, quelqu'un me prêche l'évangile et que je sois sauvé. Que prononce ces paroles, Christ, définition, croix, amour, œuvre accomplie, résurrection, règne. Sans ça, il n'y a rien qui se passe. Et c'était la motivation, je me rappelle toujours, un camp qu'on a fait à Sainte-Croix, où, je ne sais plus où c'était, un week-end d'église qu'on a fait, où on a prié pour les appels, puis on a fait un hôtel, on a mis des cailloux, je ne sais pas si tu te rappelles, Raymond. Et puis là, il y a ce verset qui était là pour moi. Si personne ne prêche, comment croiront-ils? Si personne n'est envoyé, comment iront-ils? La parole, la foi vient de la parole de Dieu, vient de ce qu'on entend. Et c'était le départ d'une vision concrète. J'ai toujours voulu être missionnaire. Depuis que quand je me suis converti, je ne voulais pas vendre ma lande parce que je voulais partir en mission, mais il n'y avait rien qui se passait. Mais là, c'était le point de départ d'une vision claire, la parole de Dieu. Et puis ça, c'est vraiment important. Portons la parole de vie. Puis je vais vous laisser avec ça. Étudiez-la, aimez-la. Persévérez. Soyez remplis de la parole pour pouvoir être capable de pouvoir vraiment poser la pensée de Dieu pour les personnes avec qui vous êtes. Dans le service, dans l'imagination de Dieu, dans la liberté de Dieu, pouvoir amener ces gens que Dieu aime, pour lesquels Dieu est mort, à pouvoir avoir une onction sur leur vie qui les amène au salut. Ça peut être un processus qui est très long ou très court, mais c'est important. Père, je te remercie pour ta pensée pour nos vies. Et puis c'est vrai qu'en prononçant ces quelques paroles, je suis défié moi-même dans plein de domaines où il y a encore des choses qui sont sues, qui sont vraies, mais qui peuvent être encore théoriques. Puis on veut prier, Seigneur. On veut prier pour avoir la capacité, pas de prendre des bonnes résolutions du mois de janvier, Seigneur, mais d'avoir des vies illuminées, conduites, qui rentrent dans l'obéissance de l'humilité pour briller dans cette génération perverse et corrompue. Plus les corrompus, plus on brille. Quand le péché abonde, la grâce surabonde. On veut prier, Seigneur, mais je veux prier pour chacun d'entre vous. C'est le mot d'une bénédiction, Seigneur, pour pouvoir, cette semaine, avoir une étincelle de mise en pratique. Avoir une pompe qui est amorcée pour découvrir une nouvelle marche dans la relation avec l'autre. Pour pouvoir bénir, pour pouvoir être celui que Dieu veut que nous soyons au milieu des générations perverses. Dans l'humilité de l'exposition pour Christ. Être exposé. Seigneur, bénis-nous, Seigneur, sous ta parole. Qu'elle soit efficace dans nos vies, Seigneur, qu'elle nous conduise. Au nom de Jésus. Amen.